Ouais, salut tout le monde. Déjà un grand bravo à toute l'équipe, hein, Daniel et puis tous les autres qui grattent derrière. Donc c'est Yves en Bretagne là, tu vois, je viens de m'engueuler avec ma chef là. Et puis j'écoute ton émission et ton marchand de patates ce soir, excellent, j'en ai pleuré de rire. Et tu vois, je suis en forme. Donc merci pour toutes tes émissions et puis ce petit moment de bonheur. Allez, ciao.
Oui, bonjour Daniel. C'est Sophie de Savoie. Super l'émission du 19 septembre. J'ai bien ri à la première, un peu moins à la deuxième. Je pense que si ton marchand de patates, il était au RMI, sans caution, sans ressources, il aurait aussi beaucoup de mal à se loger. Et ce serait pas triste d'aller voir dans les agences immobilières comment ça se passe. Voilà, merci pour tout. À bientôt.
Salut à toi Daniel et à toute ton équipe. C'est Jean-Gabriel à Saint-Vallier dans les Alpes-Maritimes. Donc, si je comprends bien, dans ta dernière émission, grâce à la directive Bolkestein, la marine marchande est retournée à l'époque des bateaux négriers pour le plus grand profit des armateurs et au détriment des employés. Bref, c'est coq en stock, quoi. Règle unique, il n'y a plus de règles. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place dans le transport aérien depuis une dizaine d'années grâce à la Commission européenne de l'aviation civile. Vol charter, compagnie à bas coût, équipage cosmopolite, sous-traitance de la maintenance des avions, privatisation des aéroports et du contrôle aérien. Bref, le ciel est à vendre et ça peut rapporter gros. Et dans ces conditions, pas étonnant qu'il y ait de plus en plus d'avions qui se crashent. Juste un exemple. L'accident de l'Airbus 340 d'Air France au Canada. Et pourquoi l'aéroport n'était-il pas fermé momentanément, alors que la piste la plus longue était inutilisable, que le système d'aide à l'atterrissage était en panne, et que la mauvaise météo condamnait l'utilisation de la piste la plus courte? Pourquoi? Parce que durant sa fermeture, un aéroport n'engrange plus de royalties. Eh bien, merci à Monsieur Bolkestein. Grâce à votre directive, on vit une époque de plus en plus formidable. Allez, salut Daniel, à bientôt.
Allô, bonjour, Sylvain Loison de Vittel. Voilà mon message. Cher Daniel Mermet, l'an dernier, j'ai croisé sur Costa. La mer était belle. Le soir, au clair de lune, je regardais les scintillés de merveilleuses lumières. Je bouffais le matin, le midi, le soir. Je bouffais. J'étais important. Les serviteurs polis et propres me servaient avec le sourire. Quel pied, j'étais James Bond. Il manquait plus que le martini. C'est vrai que pour payer peu, ces gens doivent gagner peu. Je les remercie. C'est vrai que les multinationales gagnent sur la misère de leurs employés. C'est vrai que les mafias contrôlent les politiques qui devraient les contrôler à l'échelle internationale. C'est le bordel. On le sait tout ça. Mais le gros cochon qui permet tout cela, c'est moi. C'est moi qui suis responsable en allant sur ces bateaux pourris. Et pourtant, la mer était belle. Le plaisir est immense. C'est ça, la drogue. C'est là qu'il faut faire attention, ne pas se lâcher, justement. Il faut inventer un autre monde où le tourisme est intelligent et le bonheur est dans le pré et autrement que dans cette espèce d'usine à plaisir imbécile. Voilà, à bientôt, au revoir. Sur la croisière Costia, on se verra peut-être l'année prochaine. Au revoir.
Voilà, inventer un autre monde, on est là pour ça, et on va s'y employer d'ici à 18h. On devrait arriver à changer quelque chose. C'est ce qu'on espère tous les jours en commençant cette émission. En tout cas, aujourd'hui, ben, on continue avec les pavillons de complaisance. Avec, alors, on a intitulé l'émission d'hier, le reportage de François Ruffin, Bolkestein sur mer. Mais c'est pas Bolkestein qui a inventé les pavillons de complaisance, ni ces déréglementations dans la marine et dans le transport maritime. C'est avant, ça c'est toute une histoire qu'on a commencé à raconter hier, qu'on va continuer de raconter aujourd'hui. C'est toute une déréglementation qui a permis, qui permet surtout aux compagnies, aux armateurs, d'employer des gens dans des conditions sociales déplorables et de faire naviguer des navires dans des conditions de sécurité tout à fait problématiques. C'est notre sujet du jour, donc on vous emmène en bateau à nouveau aujourd'hui. D'autres messages, je rappelle évidemment le numéro du répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est pour communiquer une information. Donc le repère des amis de la base, si j'y suis, le repère de la base, si j'y suis, de Strasbourg, vous salue et vous communique la prochaine date de réunion, le samedi 29 octobre, à 14h30, au marché bar, donc avenue de rue de Zurich à Strasbourg. Voilà, samedi 29 octobre à 14h30 au marché bar. Au revoir.
Il paraît qu'à Limoges, il y a un café, ça y est, qui est choisi pour les rencontres, pour l'émission. Mais je ne sais pas quel est le nom du café. Est-ce que vous pourriez me le communiquer ? Merci beaucoup encore une fois. Au revoir.
Oui, bonjour. C'était un petit message à la suite du reportage sur les riches en croisière, sur des pavillons de complaisance, parce qu'il m'est revenu cette pensée. Le monde appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. Voilà, je trouvais ça très fort. Je vous appelle de Gemnos, c'est un petit village à côté de Marseille. Et alors, j'en profite pour tenter l'aventure donc d'un repère de là-bas si j'y suis dans le village. Donc voilà, j'invite tous les auditeurs des environs d'Aubagne et de la vallée de Luvaune. On pourrait se retrouver le mercredi 28 septembre à 19h au bar de la Pipe. Le village, il y a quelques bars, donc le bar de la Pipe est facile à trouver. Et voilà, donc rendez-vous mercredi 28 septembre au bar de la Pipe et on refait le monde. Valérie.
Voilà, c'est Valérie du bar de la Pipe à, ça s'appelle Gemenos, donc c'est près d'Aubagne à 5 kilomètres. Et vous avez entendu, le rendez-vous c'est mercredi 28 septembre. Limoges, le repère des amis de la base, c'est le Woodstock Boogie Bar, c'est 18 rue Montjovi à Limoges. Et le prochain rendez-vous, c'est le mercredi 5 octobre à 18h30. Voilà, ça marche. Vous envoyez des propositions d'un peu partout et peu à peu, chaque jour, il y a un nouveau repère des amis de là-bas qui se crée comme ça en France, dans des tout petits villages, dans des villes. Et c'est très sympa et ça avance. Alors, on va prendre le bateau, mais auparavant, encore d'autres messages.
Oui, bonjour Daniel, c'est encore la maman pour le RPI de Anne-Cécile, la petite Verrière. Nous occupons l'école toujours depuis le début de l'année. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les enfants puisqu'on a organisé une journée cinéma. On a fait classe déserte, on a réquisitionné les 50 enfants, on les a emmenés au cinéma ce matin et c'était la fête pour eux et puis nous, la possibilité de montrer à l'inspection qu'on est capable de faire des choses aussi. Quoi. Sinon, il y a pas mal de choses qui bougent autour de nous, des gens qui se mobilisent, des rendez-vous éventuels avec des gens au placé. On espère toujours avoir gain de cause et puis on te remercie de passer l'info. Merci, au revoir.
Oui, bonjour, c'était juste pour réagir face au licenciement de mon père qui, après 20 ans de fidèle et loyaux service à sa boîte, vient d'être licencié comme un mal propre à 56 ans. Voilà, vive le capitalisme. Bye.
Salut Daniel, c'est Laurent de Perpignan. Je suis à la recherche d'un emploi depuis 4 mois. Et grâce à mes différentes recherches, j'avais trouvé un poste intéressant sur Montpellier qui est écarté de Perpignan de plus de 150 km. Donc j'avais été un petit peu naïf et j'avais cru que je pourrais faire la route tous les jours et assurer cet emploi, mais je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas. J'ai donc refusé ce poste et vendredi, dans ma boîte aux lettres, j'avais un petit courrier de la NPE qui me signifiait que j'allais être radié ayant refusé un CDI. Voilà, donc c'était pour dire aux auditeurs de France Inter que effectivement le chômage baisse, mais je pense que ce ne sont que des chiffres. Voilà, au revoir.
Alors là, moi je dis bravo à ces passagers qui ont refusé que l'avion décolle avec le jeune Camerounais que Sarkozy avait expulsé. Bravo surtout au premier passager qui a entraîné les autres voyageurs. Il mériterait d'être en première page d'un journal. La solidarité, ça paye. Mais n'oublions pas qu'il y en a encore 23 000 qui, cette année, comme ce Camerounais, doivent être expulsés. Au revoir, Marie-Paul de Villejuif.
Voilà, alors le gouvernement contribue largement à éviter que les anciens ministres deviennent pauvres. on leur offre, par exemple, pour les sénatoriales, Jean-Pierre Raffarin, parce qu'au bout de 6 mois, ils ont perdu leur rémunération, alors ils deviennent pauvres. Alors, Jean-Pierre Raffarin se présente au sénatorial, François Pillon, pareil, Éric Woerth, pareil, qui a été viré du nouveau gouvernement, il est ancien trésorier de la campagne présidentielle de Chirac, à Chantilly. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a un certain nombre qui... Alors, évidemment, ça c'est une façon de truquer les statistiques du chômage. Ceux qui devaient devenir chômeurs, on les réinstalle dans des situations intéressantes.
Oui, bonjour, Roland Alambès, à côté de Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône. C'est passé quelque chose d'extraordinaire cette année. Il y a eu 260 saisonniers immigrés sous contrat OMI qui se sont foutus en grève et qui ont fait reculer le patron, le gros patron. Ils ont réussi à obtenir les arriérés de salaire, un petit peu plus de confort dans leur hébergement, etc., etc. Merci, et continuez.
Oui, bonjour Daniel, c'est Gilbert, bateau Le Petit Prince. Voilà, je réagis par rapport à l'émission que j'ai entendue vendredi, il me semble, dans laquelle on parlait que de milliardaires et de bateaux qui coûtent des millions et des millions d'euros. Eh ben, moi, je dois te dire que nous, on circule sur notre bateau, un petit bateau de 9 mètres. On connaît plein de gens qui ont des bateaux de 9 à 14 mètres. Pour la plupart, bah, c'est des mecs qui ont pas plus de thunes que juste au milieu de la moyenne, de la classe moyenne. Tu vois, tu fais le calcul. Et par contre, c'est des gens qui ont vachement poncé, peint, réparé, travaillé, passé leurs loisirs sur leur bateau. Donc, il faut, je sais bien que toi, tu dois savoir, mais il faut que les gens qui écoutent la radio imagine surtout pas que tous les mecs qui sont des bateaux sont des oppresseurs, des licencieurs, des patrons, des capitalistes, des enfoirés. Mais il y a pas mal de mecs passionnés par le bateau, qu'ils soient à voile ou qu'ils soient à moteur sur les canaux. Et des mecs qui pensent qu'à glander sur leur bateau pendant des jours, passer leurs vacances dessus, rencontrer les autres, faire des teufs à bord et avoir plein de potes, et puis voilà quoi. Donc le bateau, c'est aussi ça, et le bateau, ça peut coûter le prix d'un espace Renault ou d'une belle voiture tout au plus, si on se donne la peine de le restaurer soi-même. Allez, ciao, à bientôt à tous.
C'était une famille de pêcheurs, ils pêchaient tous de père en fils. Que la mer soit calme ou en chaleur, ils faisaient pas beaucoup de bénéfices. Un jour, le petit devenu grand, dit « Moi, je veux être capitaine ». Mais la mère prenant son enfant, dit « Je ne veux pas, non mais alors quoi, que la mère me le prenne ». Puis elle murmura au bambin, qui déjà se voyait marin. « Si tu t'engageais dans les oies ou dans les sapeurs-pompiers, ça ne t'empêchait pas d'être brave, mais ça t'empêcherait de te noyer, car on sait bien que dans les oies ou dans les sapeurs-pompiers, on ne vous empêche pas d'être brave, mais on ne vous laisse pas vous noyer. » Elle est merveilleuse.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas j'y suis avec François Ruffin, les Bolkestein des mers.
Flight number 2, arriving from Newton.
Ce qui se passe dans la marine marchande, c'est une directive Bolkestein à l'échelle mondiale. Qui est effectivement en application. C'est le dumping social poussé à son extrême qui conduit par le biais des sociétés de manning, des sociétés de marchands d'hommes, qui conduit jusqu'à un véritable esclavage avec des salaires réduits à leur plus simple expression.
Des menaces sur le trafic des ferries aujourd'hui dans les ports français. Les liaisons avec l'Angleterre et la Corse pourraient être compromises.
Les syndicats des marins de la flotte de commerce dénoncent un projet de création d'un nouveau pavillon français. Une proposition de loi pour créer un nouveau registre international français va être déposée au Sénat, ce qui inquiète beaucoup les syndicats.
Zoubia, c'est-à-dire les pavillons machin.
Pavillon Zoubia.
Zoubia. Alors Zoubia, oui, voilà. Zoubia, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est les pavillons où tout est permis, on va dire. Voilà. Où tout est permis. Voilà. Qui sont sous les lois, sous aucune loi.
Et c'est le premier exemple mondial d'un marché du travail sectoriel mondialisé.
L'État français va officialiser en fait son pavillon de compétence au même titre que Chypre, Malte et d'autres pays. En fait, on cherche à s'aligner sur les plus mauvais élèves de la classe.
Le commandant est le seul maître à bord ? C'est faux. Le maître à bord, c'est le billet vert. Voilà, c'est tout.
Bolkestein, Bolkestein, ça fait un peu Frankenstein, et c'est pour ça que ce nom a frappé et que le nom a gagné, Bolkestein, Frankenstein, et Frankenstein c'est un peu Dracula, Dracula le vampire, et le pire pour le vampire, c'est la lumière. Quand la lumière se fait, quand la lumière apparaît, le vampire disparaît. Et voilà. Et la lumière, vous avez compris, c'est nous. Et en l'occurrence, c'est François Ruffin qui continue son enquête sur la déréglementation dans la marine marchande et notamment à travers ces fameux pavillons de complaisance. On a rêvé hier avec ces grands paquebots et ces grandes croisières. Vendredi, c'était sur des yachts qu'on était. Là, là aussi, on rêve devant ces navires magnifiques et en voyant flotter ces pavillons qui évoquent des pays lointains. Sauf que ces pavillons sont des pavillons de complaisance. On a expliqué un peu hier ce que sont des pavillons de complaisance. C'est une façon de situer un navire dans une île, un pays, mais le situer virtuellement. Et ce qui permet de naviguer selon les lois de ce pays. Or, il s'agit de pays qui, pour la plupart, n'ont pas beaucoup de lois et ne sont pas trop regardants. Si bien que la pratique des pavillons de complaisance a peu à peu envahi et pollué la plus grande partie des flottes marchandes. Simultanément, les conditions sociales et de travail des marins du monde n'ont cessé de se dégrader. Paye minimale, horaires illimités, précarité totale et droits nuls. Ils sont devenus les damnés de la mer. Et encore, on ne parle pas ici des questions de sécurité qui sont aussi urgentes et aussi catastrophiques. Mais tout ça, comme le disait cet auditeur tout à l'heure dans son message, eh ben tout ça, il y a une façade magnifique qui nous fait rêver, si bien qu'on va pas voir derrière, en général et en principe. Sauf qu'aujourd'hui, on y va, lumière.
Quand on est matelot, on est toujours sur l'eau. On visite le monde, c'est le métier le plus beau.
C'est le métier le plus beau.
Du pôle sud au pôle nord, dans chaque petit port, plus d'une fille blonde nous garde ses trésors.
Nous garde ses trésors, pas besoin de pognon. Mais comme compensation, à toutes nous donnons un petit morceau de nos pompons. Voilà les gars de la marine, quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux. Partout, du Chili jusqu'en Chine, on les reçoit à bras ouverts du bulot de mer. Quand une fille les chagrine, ils se consolent avec la mer. Voilà les gars de la marine, du plus petit jusqu'au plus grand, du moussaillon au commandant. Oh, oh.
Donc là, on se trouve à Marseille, en compagnie de Yves Reynaud, qui est contrôleur ITF. C'est quoi ITF, en fait ?
C'est la Fédération Internationale des Ouvriers de Transport. Ça rassemble plus de 600 syndicats dans le monde.
Et que fait un contrôleur ITF ?
Un inspecteur ITF, il contrôle. Il inspecte, voilà. Il inspecte les navires au niveau social. Pour faire court, on est des délégués syndicaux internationaux. Voilà, je crois que c'est la meilleure définition.
Donc là, on se dirige vers le port autonome. On va contrôler un navire.
Oui, on va contrôler un navire qui a un accord ITF et que j'ai pas contrôlé depuis au moins 2 ans.
Et là, c'est sous un pavillon de complaisance ou c'est...
Oui, il est pavillon de complaisance, celui-là. Si je me rappelle bien, c'est chypriote.
Et l'expansion des pavillons de complaisance, elle date de quelle époque ?
Après la guerre. Après la guerre. Vers 1948, grosso modo, c'est là qu'a démarré officiellement la bagarre syndicale contre les pavillons de complaisance. Ça vient parce que pour transporter leur matériel, les Américains, ils ont employé ce qu'on appelle les bateaux de la liberté, les Liberty Ships, c'est-à-dire des cargos qu'on construisait en même pas 3 semaines à la chaîne. Et ces cargos, après, ils se sont retrouvés sur le marché. Et il y avait, bon, bien sûr, quand il n'y a plus de guerre, il y a plus de croissance. Tous ces bateaux étant sur le marché, c'était très intéressant pour transporter les marchandises à bas prix. Et le Panama et le Libéria ont été les premiers, avec le Honduras, à développer ce type de pavillon défiscalisé. Et ça a permis, malheureusement, la dérégulation sociale mondiale au niveau maritime.
Donc là, on passe par la porte 4 du port autonome.
Là, nous avons une magnifique relique qui est la base sous-marine allemande qui a des murs d'environ 6 mètres d'épaisseur quand même, hein, qu'ils n'ont pas réussi à détruire. Et ils ont calculé que ça reviendrait tellement cher de faire sauter ce truc qu'ils ont préféré le garder. Ce qui fait qu'il y a des magnifiques locaux à l'intérieur. C'est le meilleur abri anti-atomique de France ou de Marseille en tous les cas. 6 mètres d'épaisseur, c'est pas mal. Et donc, il y a des ouvriers, il y a des employés du port autonome qui travaillent dedans. On voit encore les traces de balles sur le mur, ou d'obus, qui l'ont à peine égratigné d'ailleurs. Alors, là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est il y a deux navires intéressants, il y a celui-là et le Libro d'Oro là-bas. Je vais voir un peu la tête des bonhommes. Parce qu'apparemment, ils ont un peu faim.
Il y a des marins qui ont faim, vous dites ?
Oui. Sur le navire au cas sucre, là, apparemment, j'ai eu des échos, des indiscrétions, dirons-nous, de bonnes sources, comme quoi les gars, ils ont été obligés d'aller s'acheter eux-mêmes leur bouffe au Lidl du coin. Mais bon, semble-t-il, ça s'est amélioré parce que, comme d'habitude, quand ils arrivent dans un port européen, ils se méfient un peu, il y a ITF, il y a les affaires maritimes, donc. Ils nourrissent les bodhommes, ils donnent quelques avances de salaire, ils calment un peu le jeu. Ça, c'est un grand classique aussi. Majuro, donc c'est les îles Marshall, celui-là.
Ouais. Les îles Marshall.
Ouais, un magnifique pavillon de complaisance, bien exploité par les Américains, entre autres.
Donc là, c'est un immense bateau noir. C'est un cargo, c'est ça ? Et qui transporte quoi, vous savez ?
Celui-là, c'est du sucre. C'est du sucre, il a environ 12 000 tonnes de sucre qui vient sûrement de la Réunion, quelque chose comme ça. Et donc du sucre en vrac, du sucre roux, qui est déchargé à la grue. Et pour terminer, à la pelle et au bulldozer. C'est ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'on puisse mettre un magnifique bulldozer tout rouillé dans un tas de sucre. Et c'est comme ça. Donc là, j'avais juste un œil pour voir un peu les marais.
Là, vous prenez vos lunettes, vos jumelles.
Oui, les jumelles, c'est très pratique. Ça permet de voir sans être à vue. Ouais, les gars, ce sont des Asiatiques. C'est pas de Québec. Peut-être des Birmans. C'est pas impossible. Mais enfin, c'est pas celui-là qu'on va aller voir aujourd'hui. Celui-là, ce sera pour demain, je pense. On va aller voir l'autre qui se trouve au quai
Alumine.
Là.
I am Inspector, and I would like to visit the vessel and firstly to see the master. Good. Let's go.
Donc là, on suit le capitaine à l'intérieur, qui porte une casquette, des lunettes, en bermuda et t-shirt blanc.
Όχι, τώρα άσε μη βρούμε τίποτα άλλα και μου φέρνουν τίποτα.
Donc là, on rentre dans le, là, on rentre dans le bureau du capitaine. Il y a des photos de sa fille, sa petite fille au mur. Non. Il y a un drapeau grec au mur.
Antonios, Antonios, Captain Antonios, from Crete Island.
De Crète.
Six years ago, the earthquake destroyed my house.
Il y a 6 ans, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit ma maison.
In Athens, Athens. I live in Athens. I was needing money, so the last 3 years, I signed up for 2 times.
Cette compagnie, là, j'y suis parce que là, en ce moment, j'ai besoin d'argent. Donc, j'ai besoin, il me faut 25 000 euros.
My name is Roman.
Roman, ok. Yes. Tu es de où en Grèce?
I'm from Bulgaria.
De Bulgarie, alors?
Seaman AB, my rank.
Able-bodied seaman, c'est matelot.
I'm diving the ship. Mm-hmm. Paint.
Donc à bord, je fais la conduite du navire, et puis je travaille sur le pont, je fais de la peinture, par exemple.
Et là, il perçoit combien, c'est quoi le revenu quand on est matelot?
How much money? 1300.
1300 dollars.
Il y a une retraite, il y a une sécurité sociale?
Non. I must buy my service 1000.
Là, c'est Antonio le capitaine qui répond.
Lui, comme il travaille sur un pavillon chypriote qui fait pas partie de l'Europe, eh bien, il faut qu'il cotise à une caisse d'assurance privée.
Là, c'est un contrat de combien de temps qu'il a?
7 mois.
Et après le contrat de 7 mois, il est au chômage?
Contract 7 plus 2 months. 7 plus 2 months. Yes.
Oui, c'est un contrat de 7 mois. Après 7 mois, j'ai 2 mois de vacances.
Et les 2 mois de vacances, elles sont payées?
Non, non.
On vient de faire la visite du Union Sea. Apparemment, tous les papiers étaient à peu près en règle. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Yves Renault, qui est inspecteur de l'International Transport Federation?
Les papiers étaient en règle. Voilà. C'est-à-dire que les contrats de travail réfèrent bien à la convention collective. Donc, juridiquement, c'est bordé. Les fiches de paye, donc, sont à jour et font état de tout un tas de primes et le total, donc, correspond bien au minimum de l'accord ITF, etc. C'est signé par le marin. Bon, maintenant, par expérience, je me dis qu'un Bulgare qui touche 1400 dollars, je suis extrêmement surpris. Bon, un Bulgare, dans la flotte bulgare, il gagne 400 dollars par mois, quoi. Faut savoir. Ça aurait été, bon, un Croate qui gagne 1400 dollars, c'est possible. Un Philippin, même, c'est possible. Un Bulgare, j'ai des doutes. C'est comme ça. Ou on me dirait même un Chinois, voilà. On dirait un Chinois ou un Bulgare, pour moi, c'est pareil. Il y a des pays où on sait que c'est pas possible qu'ils aient des salaires comme ça. Mais un syndicat, il peut pas, tant que la personne n'abat pas son jeu et ne prend pas le risque de se saborder dans la compagnie, parce que ça revient à ça le plus souvent. Il y en a qui le font, hein. Quand ils sont en fin de carrière ou quand ils ont décidé, bon ben, de quitter cette compagnie, ben s'ils sont pas payés depuis 3 mois, ben ils y vont franco et ils dénoncent qu'ils sont sous-payés, etc. Ils peuvent se mettre en grève et ils jouent leur va-tout et ils gagnent. Mais bon, le fruit n'est pas encore mûr, je dis. Il se peut qu'il mûrisse. Hein.
Alors, il a du
travail, hein, monsieur Yves Reynaud, qui est délégué syndical international d'ITF, International Transport Federation. Il a du boulot parce que ils sont quatre, comme ça, quatre agents en France. Il y en a un seul pour la Méditerranée française, enfin pour les côtes méditerranéennes françaises, alors que sur ces côtes passent chaque année 10 000 navires, et ce qui représente 100 000 marins. Alors évidemment, avant qu'ils puissent tomber sur des affaires scandaleuses, il a vraiment du boulot. Alors que la situation devient de plus en plus catastrophique dans ce domaine, dans la marine marchande, la plupart des sociétés pratiquent l'apartheid sur les navires. On n'en a pas parlé, mais c'est de pratiques courantes. La discrimination sur le marché de l'emploi pour mettre en concurrence, véritable concurrence de misère, les différentes origines. Par exemple, en ce moment, les Philippins, qui ont su obtenir des conditions un peu supérieures, eh bien, sont moins demandés. Dès qu'on réclame un petit peu, eh bien, hop, on vous prend plus. Et actuellement, c'est les Chinois qui sont en priorité sur le marché. On voit que ce que l'on redoutait avec la directive Bolkestein, qui d'ailleurs n'est pas abrogée du tout, hein. Cette histoire n'est pas terminée. Eh bien, ça existe depuis longtemps, très longtemps, dans le transport maritime et dans la marine marchande. Alors, on retrouve deux observateurs pointus de cette histoire à Paris. François Lille, qui est ancien officier de marine marchande, qui est chercheur, qui est membre de la commission transport d'attaque, et Philippe Mulstein, qui est membre de la commission transport d'attaque.
Vous avez une autorisation pour une prise de sang?
Non.
Alors il faut aller en chercher une au palais.
Une autorisation pour prendre le bruit de l'eau?
Oui, prise de sang et prise de vue. Pour d'accord. Une autorisation, vous êtes dans un jardin privé.
On est dans un jardin privé,
oui,
ici.
Qui appartient au Sénat et pas à la ville de Paris.
On se trouve là dans les jardins du Sénat, devant le bassin où seuls naviguent des petits bateaux mis sur l'eau par des enfants. Vous, monsieur François Lille, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Pourquoi l'Erika a coulé ?». Vous êtes un ancien officier de marine marchande. Si on se trouve dans les jardins du Luxembourg, c'est pas par hasard?
Oui, c'est de là, c'est du Sénat qui est parti, et cette fameuse loi RIF. C'est là qu'un carteron de sénateur a amené un projet de loi qui, de notoriété publique dans le monde maritime, était directement le projet de loi des armateurs.
Maintenant, il suffit qu'il y ait le commandant et son adjoint qui soient sous contrat français, et tout le reste pourra être sous contrat polonais, bulgare, costaricain, philippin. C'est comme si on mettait les marins de tous les pays. C'est pas marins de tous les pays, unissez-vous. C'est au contraire marins de tous les pays, soyez en concurrence, marins costaricains, marins chinois, marins philippins, marins français.
Oui, les Philippines, par exemple, ont été un des premiers États à signer la convention OIT sur la sécurité sociale. Mais résultat, la moitié des marins philippins du monde sur la flotte mondiale sont maintenant au chômage. On embauche à l'appel des Chinois qui, eux, on parlait de salaire tout à l'heure. Le salaire réel tourne facilement autour de $200. Hein.
C'est-à-dire que les marins philippins se retrouvent au chômage parce qu'à leur tour, ils ont réussi à avoir une petite conquête sociale. Donc, on trouve le dumping social conduit à embaucher des Chinois à leur place.
Voilà, les marins philippins, on les trouve entre 400 et $800 à peu près. Les Chinois, on parle de $200, mais certains parlent de $50 aussi. Et c'est le premier exemple mondial d'un marché du travail sectoriel mondialisé, qui est, à mon avis, la préfiguration de ce qui va forcément arriver dans les secteurs de production mondialisés, secteur après secteur, puis très vite la constitution d'un marché mondial du travail.
Monsieur Mulstein, si on transpose ce qui se passe sur mer à une usine ou à un bureau, ça voudrait dire que dans cette usine, on a des cadres français qui sont rémunérés sous contrat française avec une sécurité sociale française, et par ailleurs des ouvriers qui seraient eux sous contrat philippin, sous contrat costaricain, sous contrat bulgare. Donc ça, c'est, enfin, pour l'instant, c'est encore impensable sur Terre.
Les syndicats, les organisations syndicales, dans tous les secteurs, dans les grandes confédérations, auraient intérêt à suivre de très près ce qui se passe dans ce domaine.
Est-ce que vous pensez que ce qui se passe dans le domaine maritime, c'est annonciateur de ce qui se passera demain dans des usines, dans des bureaux ?
Absolument, et ce n'est pas une vue de l'esprit, parce que le projet de directive Bolkestein, ce n'est rien d'autre que cela, justement.
Dans les bras d'un gars de la marine, vol bleu comme les cieux, j'ai connu la minute divine d'un frisson délicieux. Pour mon cœur dans ses bras, s'il m'enlève, commence une croisière de rêve. On dirait que l'on est versé par les flots dans les bras d'un matelot. Oh, 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 j'ai rêvé mon plus beau rêve. Oh, oh,
dans les bras d'un matelot, on va effectivement continuer. Là, on retourne à Marseille. Le dernier épisode là, dont on parlait, cette histoire de Sénat, de sénateur, c'est que il y a très peu de temps, en juin dernier, a été promulguée une loi, le RIF, Registre International Français, qui permet qu'il n'y ait plus que le capitaine et son adjoint qui soit sous contrat français. C'est-à-dire que le reste de l'équipage travaille selon des conditions locales, selon les conditions de leur pays. Et donc c'est une, on aboutit vraiment là à la déréglementation la plus complète. Comment tout ça est vécu? Là on a parlé avec des spécialistes, des observateurs, mais qui ne sont pas des acteurs, ou qui ne sont plus des acteurs de cette histoire. Là on se retrouve donc à Marseille avec un marin qui travaille dans le remorquage à Fos, tout près de Marseille, et qui s'appelle Pierre Mallet.
Donc là on a rendez-vous avec Pierre Mallet, qui est marin depuis maintenant plus de 25 ans, sur le Vieux-Port à Marseille. Il est 8h du matin et il est en train de prendre son petit déjeuner sur son bateau de plaisance. On monte sur la petite passerelle qui est devant le bateau. Bonjour, monsieur Mallet. Il est 8h du matin, vous partez au travail ?
Non, j'en arrive en fait. J'ai travaillé toute la journée, toute la nuit. Je travaille sur un remorqueur, donc s'il y a des bateaux, ben, je les sers. S'il n'y en a pas, ben, j'ai de la chance.
Et là, cette nuit, vous avez eu des bateaux ou vous n'en avez pas eu ?
Et oui, pas de chance. Cette année, on a eu pas mal de navires. On a eu des pétroliers, on a eu des porte-containers. Voilà, essentiellement, un minéralier aussi. Voilà quoi.
Et ça fait longtemps que vous travaillez au remorquage sur Marseille ?
Oui, ça fait, bon, enfin, moi ça me paraît assez long, ça fait une douzaine d'années. C'est vrai que je suis d'une génération, donc moi j'ai 44 ans, je suis d'une génération où j'ai vécu la fermeture des boîtes les unes après les autres. Donc mes 10 premières années de travail, ça a été, en fait je faisais 1 an, 6 mois dans des boîtes. Bon, j'avais fait 3 ans dans une boîte, ça me paraissait énorme.
Sur quel type de bateau vous étiez, dans quelle société vous étiez auparavant ?
Alors, j'ai fait un petit peu tout. J'ai fait des porte-containers, donc sur les lignes d'Extrême-Orient essentiellement. Après, j'ai fait des pinardiers. Alors, pinardiers, ça prête toujours à sourire. C'est du transport de pinard, de vin. Hein. J'avais 3 millions de litres de vin sous les pieds. Sinon, j'ai fait du roulier, c'est-à-dire transport de voitures et de camions. Donc là, à l'époque, c'était l'URSS, donc sur l'URSS et sur l'Afrique du Nord. J'ai fait le transport de bananes, alors là c'était du vrac, bananes, ananas, enfin primeurs, sur l'Afrique, côte ouest.
Et donc, par exemple, sur ce vraquier, à l'époque où vous y travailliez, donc je sais pas quelle année c'était, mais c'était sous pavillon français Kerguelen, sous pavillon français, ou bien comment?
Alors, c'est vrai que je suis un peu un dinosaure malgré mes 44 ans, c'est-à-dire que je n'ai connu que du pavillon français plein, c'est-à-dire que un équipage complètement français à bord, avec donc la législation française à bord. Ça n'existe plus quasiment, enfin j'exagère, mais à peine.
Vous êtes officier ?
Oui, je suis officier, donc j'ai fait la filière académique, c'est-à-dire l'école, 4 ans d'école.
Mais est-ce que vous avez des nouvelles de vos camarades de promotion, par exemple ?
Moi, sur ma promotion, on était 120 à rentrer. À un moment donné, on a été plus que 5 à naviguer, quoi. Et comme par hasard, 5 qui naviguaient soit au remorquage, soit sur les ferries, c'est-à-dire pavillon français plein.
C'est-à-dire que les ferries, le remorquage, le pilotage également, c'est des secteurs protégés parce que c'est quasiment encore seulement intranational, seulement sur le territoire français.
Voilà, c'est ça.
Vous avez dit, ça fait combien de temps que vous naviguez ?
Donc moi, ça fait 25 ans que je navigue.
25 ans, donc ça fait depuis 80, en gros. Ouais. À l'époque, c'était quoi la législation en France ?
Alors, effectivement, à l'époque, la législation, c'était ou noir ou blanc, c'est-à-dire il y avait le pavillon français, avec l'imposition de l'équipage français, conditions françaises, législation française, hein, complet, et puis, ou alors, quelques compagnies qui avaient des pavillons complaisants, mais c'était en fait des filiales des compagnies. Et donc, c'était noir ou blanc. Puis, petit à petit, les choses ont évolué. La France a eu la bonne idée, soi-disant, de créer le pavillon de Kerguelen, qui était un début de pavillon de complaisance. C'était dans les années 86-87, autant que je me souvienne. Et là, en fait, il y avait deux poids, deux mesures. C'était un peu l'apartheid institué, c'est-à-dire que la législation permettait d'embarquer, en fait, c'était 35% de l'équipage devait être français et le reste était international, et les gens étaient payés en fonction de la couleur de leur peau, c'est-à-dire que si le chef de car était français, il était sous législation française et était payé français. S'il était russe, javanais ou philippin, il était payé en fonction de sa législation de son propre pays, c'est-à-dire sans retraite ni quoi que ce soit. Bon, et c'était c'était un essai pour relancer la marine marchande, parce que en fait, pour faire concurrence aux autres pavillons qui fleurissaient à l'époque. Et on en est arrivé à cette année, les députés et sénateurs, enfin le législateur, a créé un pavillon de complaisance français où seul le capitaine doit être français et être payé, le capitaine et son adjoint exactement.
Donc c'est-à-dire au départ c'est 100% de personnel français, 100% de l'équipage français, ensuite avec le pavillon Kerguelen en 86 c'était 35% de personnel français, et aujourd'hui avec le RIF c'est juste le commandant et son adjoint.
Voilà, c'est ça.
Si on transpose ça sur Terre, ça veut dire que grosso modo, dans une usine de pneumatiques Jean Goodyear, on aurait maintenant le patron et son sous-directeur qui seraient de nationalité française, et ensuite on aurait comme ouvrier des Philippins, des Libériens, qui seraient sous contrat libérien, sous contrat philippin, employés à l'intérieur d'une entreprise située en France.
Voilà, exactement. Donc moi, ça me fait rêver à une seule chose, et je me dis que après tout, on pourrait pousser un peu le raisonnement un peu plus loin, et pourquoi pas l'appliquer au Sénat ou aux députés, quoi. On verrait bien un président du Sénat français et puis les sénateurs philippins, javanais, russes, payés aux conditions, à leurs conditions de leur pays d'origine, quoi. Et finalement, on ferait des économies certainement.
Alors, Pierre Mallet, bon, vous avez vu, il a 44 ans, c'est un vieux, c'est même un petit vieux maintenant, hein, pour les conditions de travail actuelles. On va aller voir les plus jeunes, on va aller voir des jeunes, qui sont Julien et Alexis, qui sont sortis de l'école des officiers de marine en 1998. Ils vont nous raconter comment eux voient les choses, eux qui ont commencé leur activité alors que les pavillons de complaisance étaient largement implantés. Mais tout ce qu'on nous raconte là, ça montre qu'effectivement Monsieur Bolkestein avait bien raison de dire, mais qu'est-ce qu'on me veut, j'ai rien inventé. Il était tout étonné, il avait raison, puisque ça existe depuis si longtemps. Pas dans le domaine qui était le sien, mais dans le domaine maritime, la déréglementation sociale, mondiale, est largement en cours et installée dans ce domaine depuis fort longtemps.
Donc là, on se trouve à la plage de la Pointe Rouge, toujours à Marseille. La nuit est tombée. En face, il y a juste les lumières de la corniche. On est au bord de l'eau, assis sur des pédalos, en compagnie de Julien et d'Alexis, qui sont tous deux sortis il y a quelques années de l'école d'officiers de marine, qui se trouve pas loin d'ici, je crois.
Oui, qui se trouve juste en haut, là, à Marseille Vert. Donc moi, je travaille à la Fouquet Facop. C'est une compagnie qui fait du cabotage pétrolier, qui est une compagnie marseillaise. Je suis commandant depuis un an et demi maintenant.
La compagnie est française sous pavillon français ?
Alors, les bateaux de la Fouquet Facop sont sous pavillon dit TAF, c'est-à-dire Terre Australe et Antarctique Française. C'est-à-dire c'est le pavillon BIS actuellement français. Majoritairement, sur les bateaux, on est trois Français. Le reste de l'équipage est en roumain.
Et en termes de salaire, ils sont payés combien ?
Alors, les salaires, j'ai pas une idée très précise à vous donner, mais ils sont payés moins que nous. Et ils ont moins d'avantages. Ils ont pas de congés. En plus, il n'y a pas de charges sociales et de charges qu'on appelle patronales, hein, qu'on voit sur les fiches de salaire. Toutes ces charges-là ne s'appliquent pas, bien entendu, à l'officier roumain, puisque c'est pas la compagnie qui les paye.
Depuis que tu es rentré dans cette compagnie, t'as toujours vu ça ? Ça a toujours été comme ça ?
Ben ouais, parce que je suis rentré il y a 3 ans et il y a trois ans le taf s'appliquait déjà dans cette compagnie, donc ça a toujours été comme ça, quoi.
Et enfin, tu considères ça comme naturel puisque ça a toujours été pour toi ou pas?
Ben, nous on est d'une génération, enfin d'une promotion comme on dit, où on est un peu arrivé avec ce système de pavillon bis. Disons que ça nous a pas choqué. Contrairement, par exemple, aux anciens qui, eux, ont connu les bateaux tout français. Et du coup, ça leur a fait un choc. Nous, on est un peu sortis de l'école en même temps que ces pavillons-là, quoi.
Le RIF autorise davantage de nationalité à bord ?
Ben, bien sûr, puisqu'il ne fixe qu'un cadre légal pour la nationalité française. C'est le commandant et son suppléant légal. Après, vous pouvez mettre n'importe qui, y compris des marins extra-communautaires. Il va y avoir 4, 5, peut-être des fois 6 nationalités sur le même navire. Et on comprend, enfin, je sais pas, moi, les gens qui nous écoutent, ils travaillent dans un bureau. Alors, imaginez-vous travailler dans votre bureau avec votre voisin de droite, c'est un Polonais, le voisin de gauche, c'est un Philippin, et puis le troisième, c'est un Chinois. Et puis, le jour où il faut régler une facture dans l'urgence ou faire un briefing, il y a la notion de langue, il y a la notion de culture, il y a la notion d'intérêt. Donc tout ça, c'est la structure du navire qui va s'en trouver changer en fait. Hein. Ça va emmener une augmentation du risque d'avoir des accidents.
Bon, il faut savoir que quand on est sous pavillon, comme on dit, Zoubia, c'est-à-dire les pavillons machin.
Pavillon Zoubia.
Zoubia, c'est exactement ça. C'est-à-dire les pavillons où tout est permis, on va dire. Voilà, où tout est permis. Voilà. Qui sont sous les lois, sous aucune loi, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait naviguer des types pendant 8 mois d'affilée. Le type, voire plus. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des types qui avaient 5 mois de bord. Les types étaient contents. Le type connaissait pas du tout son métier. Voilà. C'était un Portugais. On l'avait ramassé sur le quai. On l'avait mis à bord. On lui avait dit, voilà, tu vas naviguer comme matelot. Alors, il croyait qu'il allait peindre et piquer la rouille. Quand il s'agit de faire le quart, faire la manœuvre à l'arrière, enfin, avoir des responsabilités. Là, l'officier se retrouve tout seul. Et je peux vous dire que quand vous avez des Français qualifiés en personnel d'exécution, eh ben vous êtes quand même rassuré avec ce matelot portugais. Si vous voulez, je faisais le quart, donc on veillait. Et à un moment donné, je lui dis, mais tu m'annonces pas les bateaux que tu vois, tout ça ? Et il me dit, ah non, j'ai jamais fait. Et je dis, mais oui, mais il faut quand même que tu me les annonces, quoi. Imagine, je l'ai pas vu. Ah non, j'ai jamais fait. Bon. Venant d'une compagnie où c'est quelque chose de régulier, je lui dis, ben, je vais t'apprendre quand même. Et je lui apprends, si vous voulez, les quarts. Alors, un bateau qui est, on va dire, un peu sur l'avant, c'est un quart, un peu plus, c'est décalé, si vous voulez. Et je lui dis, ben, alors voilà, par exemple, ce bateau, tu vois, il est 2 quarts bâbord. Et il me dit, quart, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, je lui dis, ben, tu vois les ventilos, là, sur les manches à air, vous savez, là, il y a des manches à air sur le pont. Et je lui dis, ben, voilà, par exemple, il est à la 3e manche à air, quoi. Elle me dit, bon, ben, si tu veux, je te les annoncerai. À un moment donné, effectivement, il m'annonce un bateau. Il m'a dit, on a un bateau à la 3e manche à air tribord. Alors, 3e manche à air tribord, bon, c'était bien, si vous voulez, parce qu'il avait, il avait appris quelque chose, mais on va à la dérive, quoi. Je veux dire, on met n'importe qui, n'importe où, et après, on s'étonne qu'il y ait des catastrophes. Mais il faut pas s'étonner. Comment on peut dire maintenant la fameuse phrase,
le commandant est le seul maître à bord. Enfin, je veux dire, c'est terminé. Le commandant est le seul maître à bord, c'est faux. Sur les compagnies mondiales, le maître à bord, c'est le billet vert. Voilà, c'est tout.
Le matelot, c'est un enfant des quatre coins du monde. Il a vogué par tous les temps, sous les yeux à la ronde. Il rêve la nuit dans son hamac, qu'il a dans le fond de son sac de bien jolis galons. Mais faut faire attention, attention, avant d'être capitaine, il faut être matelot. Quand il a blouse de laine, le béret de son bateau, faut grimper aux mâts de misaine, souffrir dur et boire un pot. Avant d'être capitaine, il faut être matelot. Portez la blouse de laine, le béret de son bateau. Avant d'être capitaine, il faut être matelot. Va matelot, vogue sur l'eau.
Merci à tous, merci à Mike Ayri, Yves Reynaud, Jocelyne et Pierre Mallet. François Lille, Philippe Mulstein, Alexis et Julien. C'était un reportage de François Ruffin. À lire, Transport maritime, danger public et bien mondial. François Lille et Raphaël Baumler, édition Charles-Léopold Maillère. Tous les repères et repères des amis de la base, si j'y suis. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, technique aujourd'hui, Alain Alstam et Jean-Philippe Jeanne. Réalisation Yann Chouquet, assistant Raphaël Moutarde. Assistante Pascal Pascariello. Le numéro de répondeur, c'est le 01 56 40 37 37 et c'est Christophe Humbert qui s'en occupe. Le mail daniel.mermet@radiofrance.com. Et voilà, c'est le moment de la réclame.